Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. 25 ans après le génocide au Rwanda, le pays ouvre une série de commémorations aujourd'hui qui va durer 100 jours, histoire de tenter de refermer une plaie difficile à cicatriser. La France sera présente, même si 25 ans après, la question de la responsabilité française se pose toujours. Le ton continue de monter en Libye entre les forces loyalistes et celles du maréchal Haftar. La communauté internationale appelle au calme, une demande pour l'instant qui n'est pas suivie d'effet. Nous irons en Corée du Nord pour un événement particulier aujourd'hui, le marathon de Pyongyang, rare moment où le pays ouvre ses portes. Et le premier meeting de Raphaël Glucksmann en vue des élections européennes. Envie d'Europe écologique et sociale, c'est le nom de la liste PS dévoilée hier. C'est aujourd'hui que le Rwanda entame 100 jours de commémoration pour le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. 100 jours, autant que la durée des massacres qui ont débuté le 7 avril 1994. La France sera présente sur place via le député LREM Hervé Berville, orphelin d'origine rwandaise. Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement dans un contexte où la France est toujours pointée du doigt pour son rôle dans ce génocide en 1994. L'armée française est notamment mise en cause par les rescapé de Bissi-Séro, un haut lieu de la résistance des Tutsis. Pierre Fission, vous avez pu constater qu'aujourd'hui encore, le ressentiment envers la France est fort.
Depuis le village de Foyer, il faut emprunter un long chemin de terre accidenté pour y accéder. Bissi-Séro, ce nom résume à lui seul le rôle ambigu de l'armée française durant le génocide. Le 27 juin 1994, des commandos de l'opération turquoise découvrent sur place quelques dizaines de Tutsis affaiblis et abandonnés à leur sort. À en croire les témoignages de rescapés, les soldats leur promettent de revenir rapidement, ce qu'ils ne feront que deux jours et demi plus tard. Entre-temps, un certain nombre de Tutsis aura été massacré. Gakoko, un rescapé qui combattait les Interahamwe à l'époque, affirme avoir vu les soldats français s'afficher avec un extrémiste hutu.
Ils étaient souvent avec un professeur qui montrait là où étaient les gens à tuer. Il habite en bas. Il a même été en prison. On l'a relâché. Il confie souvent aux gens qu'il était un génocidaire.
Pour Boniface, un autre rescapé qui habite également sur la colline, la venue des soldats français le 27 juin a poussé les Tutsis qui se cachaient à sortir au grand jour.
Les gens sont sortis parce qu'ils pensaient qu'ils allaient nous aider. C'est à ce moment-là que les miliciens ont vu qu'on était nombreux. Ils ont alors commencé à nous tuer.
L'armée française a toujours affirmé qu'elle n'avait rien à se reprocher. Ce discours des rescapés très critique envers la France est en tout cas très contrôlé ici. Impossible en effet d'interviewer sans autorisation d'autres rescapés que ceux mis à disposition par les responsables du site mémorial.
L'envoyé spécial de RFI au Rwanda pour France Culture, Pierre Firsion. En Libye, les combats continuent entre les forces loyalistes d'Al-Sarraj et celles du maréchal Haftar. Le ton monte également. Le gouvernement d'Union Nationale dénonce une trahison de l'accord de paix. Fayez Al-Sarraj estime que le maréchal Haftar l'a poignardé dans le dos, je cite, et malgré les mises en garde de la communauté internationale, Maureen Mercier, rien ne laisse penser à une amélioration du climat entre les différentes force.
Le général Haftar n'est pas du genre à se plier aux recommandations de la communauté internationale. Peut-être même que de voir Paris, Londres, Washington, l'ONU l'exhorter de cesser son offensive sur Tripoli l'encourage à la poursuivre. Pourquoi ? Parce que les solutions politiques imaginées ou soutenues par la communauté internationale jusqu'ici ne lui conviennent pas. Si le général a choisi de monter sur Tripoli quelques jours avant la conférence prévue le 14 avril, celle censée enfin jeter les bases d'un État libyen, ce n'est pas une coïncidence, mais pour montrer sa puissance. L'ONU assure vouloir maintenir cette conférence. Haftar, lui, maintient la pression. C'est un bras de fer, un jeu très dangereux. Les forces alliées au gouvernement de Tripoli, soutenues par la communauté internationale, procèdent désormais à des raids aériens contre les forces fidèles au général. Et au sol, après des combats autour de l'ancien aéroport de la capitale, chacun renforce ses positions. Les habitants de Tripoli, eux, ont commencé à faire des provisions.
Maureen Mercier. Au Venezuela, la pression continue de monter entre le président Maduro et son opposant Juan Guaido. Nicolas Maduro multiplie les menaces d'arrestation contre celui qui s'est prononcé président par intérim, tandis que Guaido continue de mobiliser la foule dans les rues, avec pour but ultime de prendre Miraflores, le palais présidentiel. Les manifestants, eux, pensent tout de même avant tout à leurs conditions de vie qui restent très compliquées, Benjamin Delisle.
Ils disent être plus déterminés que jamais. Sur la place Altamira, les manifestants chantent pour se motiver, arborent des slogans contre l'absence de courant et les pénuries d'eau. Elisabeth s'indigne que le gouvernement se dédouane une fois de plus en accusant les États-Unis.
Ellos
C'est à eux d'endosser l'entière responsabilité car ils ont confisqué tous les pouvoirs publics au Venezuela et ce sont eux les vrais coupables de la misère et du désastre dans lequel est plongé le pays.
Paradoxalement, les coupures de courant ont eu raison de la motivation de bon nombre de manifestants. Le cortège paraît plus dispersé qu'un mois auparavant. Grémard, 18 ans, l'explique facilement.
Les gens profitent du week-end et du retour de l'électricité pour aller trouver un peu d'eau et de nourriture car ils ont tout perdu pendant les coupures. Mais ce dont on a besoin, c'est de changement, car on n'en peut plus, on est fatigué.
Autre raison de cette baisse de fréquentation, plusieurs manifestations spontanées ont été sévèrement réprimées ces derniers jours par des colectivos, des groupes de paramilitaires inféodés à Nicolas Maduro. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'accueillir Juan Guaido, la foule devient plus dense. Amanda assure que les anti-Maduro n'ont pas dit leur dernier mot. Elle place toute sa confiance dans son président par intérim.
J'espère qu'il va nous annoncer le départ prochain de ce régime qui nous affame. Et pour ça, il ne faut pas rester chez soi, il faut être uni.
Et le prochain rendez-vous de Juan Guaido avec ses partisans et proches, debout sur la remorque d'un camion, il annonce une nouvelle manifestation dès mercredi et le début de la phase finale pour en finir avec Nicolas Maduro.
Reportage de Benjamin Delisle. Ce dimanche, c'est le jour où l'un des pays les plus fermés au monde permet l'entrée d'étrangers venus de tous horizons sur son sol. On a couru cette nuit, heure de Paris, le marathon de Pyongyang en Corée du Nord. Près de 1000 Occidentaux étaient présents, le double de l'an passé. Un événement haut en couleur qui sert aussi les intérêts du régime, Frédéric Ojardias.
C'est le marathon considéré comme le plus surréaliste de la planète. Les coureurs s'élancent sous les applaudissements de 50 000 spectateurs réunis dans un stade Kim Il-sung bondé. Le parcours les fait passer devant les bâtiments et les monuments les plus rutilants de Pyongyang. L'Arc de Triomphe, la place Kim Il-sung, la toute nouvelle avenue Millet des scientifiques, tout ce dont le régime est le plus fier. L'ambiance est bonne enfant. Descendus dans les rues, des dizaines de milliers de Pyongyangois agitent des fleurs, encouragent les étrangers et leur tapent dans la main. La course fait partie des célébrations organisées à l'occasion de l'anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur du régime, surnommé le soleil du XXe siècle. La participation de centaines d'étrangers témoigne des nouvelles ambitions de la Corée du Nord qui veut développer le tourisme pour obtenir des devises nécessaires alors qu'elle est asphyxiée par les sanctions. Venir à Pyongyang courir le marathon coûte au départ de Pékin entre 500 et 1700 euros selon les programmes. Depuis la mort en 2017 d'Otto Warmbier, un touriste américain détenu par le régime, le nombre de coureurs étrangers a été divisé par deux.
Le correspondant d'RFI pour France Culture à Séoul, Frédéric Ojardias. En France, les Gilets jaunes n'ont pas parvenu à maintenir le niveau de la mobilisation des dernières semaines. Le 21e samedi est celui qui a le moins mobilisé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. À peine un peu plus de 22 000 manifestants sur toute la France. Les Gilets jaunes estiment leur nombre à 73 000. À un mois et demi des élections européennes, les têtes de liste en course commencent à donner leur premier meeting. C'était le cas hier pour un novice en politique, l'essayiste Raphaël Glucksmann, qui mène la liste du Parti Socialiste pour ses élections. Il n'a réuni que quelques centaines de personnes hier à Toulouse, Stéphane Iglesias, mais il a plutôt convaincu dans un exercice qu'il ne maîtrise pourtant pas encore.
Raphaël Glucksmann ne sait pas encore lire un prompteur, cet écran où défile le texte de son discours. Mais globalement, les militants socialistes ont retrouvé leur fierté de trouver enfin un candidat qui ne met pas ses valeurs de gauche dans sa poche. Bon, évidemment, la tête de liste n'est pas PS, mais Daniel s'en réjouit.
Il ne faut pas le prendre à la négative, c'est pas est-ce qu'il n'y a pas de tête de liste PS, c'est qui c'est qu'on choisit pour porter nos valeurs et nous représenter aux élections européennes. Et je pense que le choix de Raphaël Glucksmann, c'est le bon choix, parce que justement, ça permet d'avoir une image un peu nouvelle au niveau européen, d'avoir quelqu'un qui a réfléchi aussi sur les crises qui traversent la France et de l'avoir au niveau européen pour y répondre, je pense que c'est important.
Pierre se dit que l'Union aurait dû être plus large.
J'aurais bien voulu un peu plus d'unité avec les amonistes, avec les communistes. Pour eux, c'est une liste qui gagne.
C'est aussi l'avis de Jean-Marie.
Mais on ne pourra pas reprocher au PS de ne pas avoir tout fait pour qu'il y ait une alliance. Donc, si petite soit-elle, c'est une alliance quand même. Et donc, du coup, moi, ça ne me dérange pas. S'il y a une telle urgence en matière d'écologie, pourquoi on n'est pas tous ensemble, quoi ?
Ces militants sont ressortis de ce meeting regonflé avec l'ambition de porter des valeurs sociales et écologiques pour sortir l'Europe d'un simple marché au service des lobbies.
Stéphane Iglesias, le temps de ce dimanche de la pluie sur une majeure partie du pays. On attend des orages sur l'extrême sud-est et la Corse, selon Météo France, de la pluie sur les reliefs, de la neige dans les Alpes au-delà de 1200 mètres d'altitude. Les températures aussi ce matin entre 2 et 9 degrés, cet après-midi comptez de 10 à 16 en moyenne.